Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a
C'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Comment allez-vous? On est bien ici sur Fréquence 7. Il y a du soleil au cœur de l'hiver, il y a du soleil au cœur du printemps, il y a du soleil tout le temps à Fréquence 7. On y est bien. D'ailleurs, est-ce que vous avez bien pris votre cotisation? Vous savez que c'est important hein, pour soutenir la radio. On a absolument besoin de vous. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, tout de suite, vous allez chercher le carnet de chèques ou vous allez sur le site, vous allez cotiser pour que votre radio continue à vivre et à vous proposer d'excellentes émissions, comme la mienne par exemple. Un peu d'humilité. Aujourd'hui, on se retrouve pour des contes de Guyane. J'ai trouvé ces contes dans un livre qui s'appelle « Les plus beaux contes nomades » chez Cyrose Jeunesse. Et je vous propose des contes de Guyane d'Yves-Marie Clément. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti! Linda Popo vivait avec sa grand-mère dans une petite case. Ce matin-là, la vieille dame lui dit « Je vais à l'abatis déterrer du manioc. Toi, va chercher un bon kumaru. » Un kumaru, c'est un poisson d'eau douce qui est présent dans le Maroni. « Allez, va chercher un bon kumaru pour le déjeuner. » Linda se leva de son hamac en soupirant. Elle enfila ses sandales et sortit. Le soleil était déjà haut dans le ciel. « Prends ce sachet de couac. » Le couac, si vous ne savez pas, c'est de la semoule de manioc. « Prends ce sachet de couac et cette mangue, » ajouta sa grand-mère. La vieille Aloukou sangla sa hotte sur le dos et s'arma d'une petite houe. Avant de disparaître dans la forêt, elle se tourna vers sa petite fille, fronça les sourcils et pointa l'index dans sa direction. « Mais, et l'esprit vorace ?» s'inquiéta Linda. Comme beaucoup d'enfants de son âge, Linda avait très peur des démons qui hantaient la forêt. « Tu n'as qu'à rester sur tes gardes, » lui répondit sa grand-mère. Il faut dire qu'en ce temps-là, l'esprit vorace vivait sur les rives du Maroni. La nuit, il rôdait autour des villages en quête de nourriture, ruinant les poulaillers, dévastant les réserves de viande boucanée et de poissons salés. Dans la journée, il n'était pas rare de le surprendre à l'abatis où il déterrait racines de manioc, dachines et patates douces avant de s'en prendre au régime de bananes et aux plantations d'ananas. Tous les moyens lui étaient bons pour satisfaire son estomac. Mais ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était une bonne ventrée de pommes cajou. À force de se faire dérober leurs provisions, les habitants étaient devenus méfiants. Ils montaient la garde chacun leur tour à l'entrée du village. Et dès que l'esprit vorace pointait le bout de son nez, il le recevait à grandes volées de bâtons. Les villageois auraient bien aimé se débarrasser de lui définitivement. Mais pour cela, il fallait brûler sa maison. Et personne au village n'avait été capable de trouver où elle se cachait. Avec son seau, sa canne et ses hameçons, Linda Popo quitta le village. Elle marchait vite, regardant droit devant elle, de peur que l'esprit ne lui joue un mauvais tour. Elle ne remarqua même pas la silhouette qui se déplaçait derrière elle dans les hautes herbes du chemin. Le soleil chauffait le sable. Elle s'installa sur un rocher, accrocha un petit verre au bout de l'hameçon et jeta sa ligne dans l'eau, tandis que deux yeux luisants l'observaient. Non loin de là, dissimulé dans les buissons, l'esprit vorace convoitait le sachet de couac et la mangue bien mûre que lui avait donné sa grand-mère. Mais Linda ne tarda pas à ressentir la faim. Elle croqua les grains de couac, éplucha la mangue et mordit à pleines dents dans la chair juteuse, aiguisant ainsi l'appétit de l'esprit vorace. Soudain sa canne se raidit. Linda ferra un petit kumaru de toutes les couleurs, qu'elle plongea aussitôt dans le seau. L'esprit vorace se pourlécha les babines. « Ce kumaru est pour moi, » grogna-t-il. vexée de ne pas avoir croqué dans la mangue ni savouré le couac. Linda prit le sachet dans lequel il restait quelques miettes. Elle le secoua au-dessus du seau. Apeuré, le petit Kumaru de toutes les couleurs resta collé au fond du récipient. Alors elle se mit à chanter. « Piki-fichi, piki-fichi, mange donc ces miettes de couac !» Charmé par la voix de la jeune fille, le petit Kumaru s'approcha de la surface de l'eau et avala 3 grains de semoule de manioc. « Merci » fit-il aussitôt. Le geste de Linda se figea. « Quoi ? Tu parles ?» Le Kumaru fit 3 tours dans le seau et ajouta « Ne me mange pas maintenant !» « Et pourquoi cela ? Je suis trop petit. Mais grand-mère m'a demandé de rapporter un Kumaru pour le repas. Donne-moi du couac tous les jours et je deviendrai vite un gros poisson et bientôt vous vous régalerez. » Linda Popo avait hâte de montrer sa pêche. Elle emmena le petit Kumaru de toutes les couleurs au village. Elle marchait bien au milieu du chemin, ne laissant pas à l'esprit vorace l'occasion de lui dérober sa pêche. Elle installa le seau dans la case au pied de son hamac. En rentrant de la bâtie, sa grand-mère lui dit « Tu as bien fait de ne pas le tuer. Nous allons l'engraisser et bientôt nous aurons un blaf délicieux. » Pendant ce temps, l'esprit vorace trépignait. Il se jura de ne faire qu'une bouchée de ce Kumaru de toutes les couleurs. Il décida de se rendre chez son ami Anansi pour lui demander conseil. Anansi, l'araignée, était réputée pour sa ruse. Quand un habitant de la forêt avait envie de jouer un mauvais tour à un autre habitant de la forêt, il s'empressait de lui rendre une petite visite intéressée. Anansi l'araignée lui dit « Sois patient, ton heure viendra. »«
C'est que je suis pressée !» dit l'esprit vorace.
« Bientôt, crois-moi, tu te régaleras d'une bonne fricassée de Kumaru. » Le lendemain, Linda Popo s'approcha du seau et réveilla le petit Kumaru en chantant. Piki-fichi, piki-fichi, mange des miettes de couac. Le Kumaru, charmé par sa voix, s'approcha de la surface de l'eau et avala 3 grains de semoule de manioc. Merci, répondit-il aussitôt. Linda le nourrit ainsi durant plusieurs semaines. Chaque soir, quand elle s'endormait, l'esprit vorace s'approchait du village et murmurait. Grossis, 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 le jour viendra où je te mangerai. Mais dès qu'il avançait d'un pas, les hommes le menaçaient de leur bâton. Comme prévu, le Kumaru de toutes les couleurs grandit très vite. Il devint trop gros pour rester dans le seau. La vieille Aloukou dit à sa petite fille « Le moment est venu de manger ce poisson. » «
Je n'en ai plus envie, » répondit Linda. « Le Kumaru de toutes les couleurs est devenu mon ami. »
« Tu ne peux pourtant pas le garder. Le seau est trop petit pour lui. »
« Mais comment faire ?»«
Eh bien, relâche-le dans le fleuve. Quand tu iras à la pêche, tu pourras continuer de le nourrir. »
Linda Popo traversa la forêt. Elle alla sur les rives du Maroni, s'installa sur son rocher, retourna le seau et libéra ainsi son ami. Chaque matin, elle lui apportait des miettes de couac. À force, sa crainte de la forêt et des esprits des bois s'estompait. Assise sur son rocher, elle chantait.
« Piki-fichi, mange donc ces miettes de couac !»
Cachée derrière un buisson, l'esprit vorace se frottait les mains. Son heure était enfin arrivée. Le soir même, sur les conseils de son ami Anansi l'araignée, il s'approcha des eaux calmes du Maroni et se mit à chanter.
Piki-fichi, piki-fichi, manque donc chez le mec de couac.
Mais le Kumaru de toutes les couleurs resta tapis au fond de l'eau.
Piki-fichi, piki-fichi, mange donc ces miettes de couac.
Mais rien à faire, la magie de la chanson n'opérait pas. L'esprit vorace rougit de colère. « Je finirai bien par te dévorer !» s'exclama-t-il. Et il retourna chez Anansi l'araignée.
« Le Kumaru refuse de se montrer !»«
C'est normal, il t'a reconnu. Il te faut adoucir ta voix. »«
Mais comment ?»«
En mettant dans ta bouche un peu de pamba magique. » La pamba, c'est une glaise blanche que les femmes mâchent souvent pour se couper l'appétit. Elle lui en procura une boulette. L'esprit vorace l'introduisit dans sa bouche et quitta la demeure d'Anansi l'araignée. Mais celle-ci le rappela.
« Surtout, ne mange pas de pommes cajou, car ta voix redeviendrait grinçante et le Kumaru te reconnaîtrait. »«
C'est juré sur ma tête !» s'exclama l'esprit vorace en s'enfonçant dans la forêt. Il passa près d'un arbre à pommes cajou.
Il ferma les yeux pour ne pas craquer, mais le parfum acidulé des fruits mûrs lui faisait trop envie. « Oh, juste une !» murmura-t-il en cueillant une pomme cajou bien mûre. Et il l'avala. Il attendit le soir pour s'aventurer sur la rive du Maroni.
« Pukifichi, mukifichi, mange donc ces miettes de couac !»
Mais le Kumaru de toutes les couleurs resta tapis au fond de l'eau.
« Pukifichi, pukifichi, mange donc ces miettes de couac !»
Rien à faire, la magie de la chanson n'opérait pas. L'esprit vorace rougit de colère et retourna chez son ami Anansi l'araignée. « Ton pamba magique ne marche pas! N'as-tu pas mangé une pomme cajou sur ton chemin ?» Anansi l'araignée savait tout ce qui se passait dans la forêt. L'esprit vorace grogna « Oh, j'ai pas pu résister !» Anansi l'araignée lui donna une nouvelle boulette de pamba magique et lui dit « Cette fois, ne mange pas de banane, car l'effet du pamba magique en serait annulé. » « C'est promis !» s'exclama l'esprit en s'enfonçant dans la forêt. Il passa devant un abatis abandonné où poussaient des bananiers en grande quantité. Des mouches bourdonnaient autour des fruits au parfum de miel. L'esprit vorace ferma les yeux pour ne pas craquer, mais il ne put résister. « Juste une » murmura-t-il en cueillant une banane qu'il avala avec la peau. De retour près du Maroni, il attendit le soir pour s'aventurer près du rivage.
« Pukifichi, pukifichi, mange donc ces miettes de couac !»
Mais le Kumaru de toutes les couleurs resta tapis au fond de l'eau.
« Pukifichi, pukifichi, mange donc ces miettes de couac !»
Rien à faire, la magie de la chanson n'opérait toujours pas. L'esprit vorace rougit à nouveau de colère. Il retourna aussitôt chez son ami Anansi l'araignée. « Mais si tu n'étais pas aussi gourmand, cela n'arriverait pas !» lui fit remarquer cette dernière. « Voici ma dernière boulette de pamba magique. Cette fois, si tu veux que ta voix reste douce, ne bois surtout pas de lait de coco !»« Je vais essayer !» marmonna l'esprit vorace en remerciant son ami. En traversant la forêt, il passa au pied d'un cocotier. Le sol était jonché de grosses noix de coco que grignotaient les agoutis. L'esprit vorace passa sa langue sur ses lèvres. L'envie était très forte. Mais il résista. Et le soir même, il s'approcha du fleuve et chanta. « Pikifichi, pikifichi, mange donc ces miettes de couac !» Sa voix n'avait jamais été aussi douce. Charmé, le Kumaru de toutes les couleurs jaillit hors de l'eau. L'esprit vorace le saisit par la queue, l'assomma et le traîna dans la forêt jusqu'à chez lui. Là, il l'écailla, le vida et prépara un bon feu. Puis il plongea le poisson dans une grosse marmite. « J'ai bien fini par t'avoir !» s'exclama-t-il en ajoutant ce qu'il faut d'épices. Il le laissa mijoter longtemps pour mieux se régaler. Le lendemain, Linda Popo vint nourrir son ami. « Pikifichi, pikifichi, mange donc ces miettes de couac !» Mais le Kumaru de toutes les couleurs n'apparut pas. Elle appela encore, elle chanta, elle s'inquiéta. Qu'était devenu son ami? Le soir même, en retournant au village, elle remarqua des taches de sang sur le chemin. Des écailles de toutes les couleurs jonchaient le sol. L'esprit vorace a tué mon ami. Folle de rage, elle décida de suivre les traces. Elle traversa la forêt, se moquant bien des démons qui hantaient les grands bois. Elle arriva ainsi devant la maison de son ennemi. Celui-ci, le ventre plein, dormait dans son hamac. Ne sachant comment s'y prendre pour se venger de lui, elle retourna au village. Sa grand-mère lui conseilla « Prends ce bidon de pétrole et brûle la maison de ce vaurien. » Avec ses allumettes et son bidon de pétrole, Linda Popo retourna dans la forêt. Elle aspergea la maison de l'esprit vorace et y mit le feu. Le bois de sa case brûla facilement. Les flammes montaient haut dans le ciel, grillant la cime des arbres. L'esprit vorace sortit de chez lui en hurlant. Poursuivi par le feu, il traversa la grande forêt plus vite que l'éclair et s'en alla très loin d'ici. Linda Popo s'en retourna chez elle pour annoncer la bonne nouvelle. L'esprit vorace est parti à tout jamais. Au village, on fit une grande fête. Grâce à Linda Popo, le pays était définitivement débarrassé de l'esprit vorace. Somewhere over the rainbow. On continue avec un autre conte de Guyane d'Yves-Marie Clément. Anansi était un gros paresseux. À l'aube, sa femme l'envoyait chasser. Il quittait la case familiale en maugréant et s'enfonçait dans la forêt. Il se contentait alors de tuer un iguane ou un agouti qu'il faisait cuire sur place et dont il se régalait, puis il rentrait au village. Bien sûr, il ne rapportait rien de la chasse à sa famille. « Comment comptes-tu nourrir ta femme et tes 4 enfants ?» se lamentait sa femme. « Le gibier se fait rare, lui rétorquait-il inlassablement. Sa femme le renvoyait alors dans la jungle jusqu'à ce qu'il trouve de quoi manger. Anansi assommait le premier lézard venu et le lui rapportait. « Un lézard pour 6 ? Ça ne fait pas beaucoup !» Le soir, autour de la marmite, les 4 enfants se battaient pour cette maigre pitance. Lequel d'entre eux mangerait les pâtes, sucerait les côtelettes, grignoterait la queue de l'animal ? Les querelles n'en finissaient pas. Là de leur dispute, Anansi eut un jour une idée. « La nourriture se mérite, dit-il. Ce soir, je donnerai à manger à celui qui m'offrira le premier une belle orchidée. » Les 4 enfants s'armèrent de leurs sabres et s'enfoncèrent aussi sec dans la forêt. « Moi, je pars dans cette direction, dit le premier. » Et il montra la rive du fleuve. « Je t'accompagne, dit son deuxième frère. « Moi, je vais dans cette direction, dit le troisième en montrant le chemin de la bâtie. « Et moi, je t'accompagne, dit sa sœur. » Ils marchèrent durant des heures, contournant chaque arbre mort, chaque branche pourrie, dans l'espoir d'y dénicher une belle orchidée. Soudain, la sœur s'exclama « Je l'ai trouvé ! Je l'ai trouvé !» Le frère qui l'accompagnait tendit l'oreille. La voix de sa sœur venait de la cime d'un vieux fromager. Torturé par la faim, le frère prit sa voix la plus douce. « Jette donc cette fleur, puis je t'aiderai à descendre de l'arbre. » Mais la sœur connaissait bien son frère. Celui-ci avait hérité de la ruse et de la méchanceté de son père. Elle se méfia. « Je vais me débrouiller seule, lui répondit-elle. » Le frère trépignait. « Tu risques de tomber et de te briser la nuque, insista-t-il en escaladant les branches les plus basses. « Ne t'inquiète pas pour moi, dit la sœur. « Lance cette fleur !» s'écria le frère. La voix du frère s'était faite plus dure. Ses yeux luisaient d'envie. La sœur prit peur et se mit à trembler. Le frère jeta le sabre dans sa direction. La sœur lâcha la branche et s'écrasa au pied de l'arbre. Le frère se frotta les mains. Pour lui, le bon repas. Il enfourna la belle orchidée dans sa poche et commença à creuser la terre au pied du vieux fromager afin de se débarrasser du corps de sa petite sœur. Puis il prit la direction du village. Il lui fallait arriver avant ses 2 frères afin de gagner le concours et de bien se remplir l'estomac. « Où est passée ta sœur ? » lui demanda la femme. « Le jaguar l'a dévorée. » La femme se mit à pleurer. Le père se frotta les mains. « Une de moins à nourrir, » pensa-t-il. Et le soir même, le frère se régala d'une fricassée d'iguane. Il lécha les os 1 à 1. Et n'en laissa pas une miette à ses frères. Le lendemain, l'histoire recommença. Tandis que leur père partait à la chasse, les 3 garçons s'armèrent de leurs sabres et s'enfoncèrent dans la forêt dans l'espoir d'y trouver une belle orchidée. « Moi, je pars dans cette direction, » dit l'aîné en montrant les rives du fleuve. « Je t'accompagne, » dit le 2e frère. « Et moi, je vais dans cette direction, » dit le 3e en montrant le chemin de la bâtie. Mais au lieu de marcher dans cette direction, il suivit discrètement ses 2 frères. Ils progressèrent durant des heures sur les sentiers, contournant chaque arbre mort, chaque branche pourrie, afin d'y découvrir une belle orchidée. Soudain, le 2e s'exclama. « Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé !» Sa voix se mêlait au gargouillis de l'eau. Il venait de cueillir une magnifique orchidée sur un vieux tronc couché en travers d'un torrent. Le 3e frère prit sa voix la plus douce. « Jette-moi cette fleur, puis je t'aiderai à regagner la berge. » Mais le 2e connaissait bien son frère, qui avait hérité de la ruse et de la méchanceté de son père, il se méfia. « Je vais me débrouiller seul. Tu risques de tomber, de te noyer. Ne t'inquiète pas pour moi. Lance cette fleur !» La voix de son frère s'était faite plus dure. Ses yeux luisaient d'envie. Le 2e frère prit peur et se mit à trembler. D'un coup de sabre, le 3e attrapa l'orchidée et fit tomber son frère dans les eaux grondantes où il se noya. Puis le 3e frère prit la direction du village. Il lui fallait arriver avant l'aîné afin de gagner le concours et bien se remplir l'estomac. « Où est passé ton frère ? » lui demanda la mère. Les Pakira l'ont tué et le caïman l'a dévoré. »
La mère se mit à pleurer.
Anansi, le père, se frotta les mains. « Un de moins à nourrir, » pensa-t-il. Et le soir même, le troisième frère se régala d'une fricassée de tatou. Il lécha les os et les écailles et n'en laissa pas une miette à son frère.
Le lendemain, le troisième frère accompagna l'aîné sur le chemin de la bâtie. Ils marchèrent longtemps, contournant les arbres morts et les souches, les branches tombées à terre. Soudain, alors qu'ils passaient devant un vieux fromager, l'aîné entendit un étrange murmure. Il s'approcha de l'arbre. Un os sortait de terre, un os humain. Il le saisit et le colla contre son oreille.
« Je suis ta petite sœur. Le troisième frère m'a tué. Il a volé mon orchidée. Puis au pied du fromager, il m'a bien vite enterrée. »
L'aîné fourra l'os dans sa poche et dit à son frère « Je ne me sens pas bien, je vais retourner au village. » Le troisième frère le laissa partir, trop heureux de se retrouver seul dans la course à l'orchidée. L'aîné donna l'os à sa mère et l'esprit de l'os se mit à nouveau à parler.
« Je suis ta petite sœur, c'est le troisième frère qui m'a tué. Il a volé mon orchidée puis au pied du fromager, il m'a bien vite enterrée. »
La mère faillit lâcher l'os.
« Mon troisième fils a tué ma fille » s'exclama-t-elle.
L'esprit de l'os ajouta « C'est lui aussi qui a tué l'aîné en le poussant dans le torrent. » La mère se mit à hurler de rage. Ce cri glaça le sang du troisième fils. Un chant étrange emplit alors la forêt. « Troisième fils, rends-nous les orchidées que tu nous as volées. Troisième fils, rends-nous les orchidées que tu nous as volées. Troisième fils, rends-nous les orchidées que tu nous as volées. Rends-nous !»
Il se boucha les oreilles, mais le chant de l'esprit de l'os avait pénétré son corps.
Il s'enfonça dans la forêt, essayant d'échapper à ce cauchemar qui le poursuivrait désormais jusqu'à sa propre mort. What a wonderful
world. Oh, belle virgule, Sylvain, bien choisi pour la fin de cette histoire. Merci Sylvain pour la technique, il est déjà temps de nous quitter. On se retrouve tous les mercredis, tous les samedis à 16h et d'ici nos retrouvailles, racontez-vous des histoires.